Page Facebook VOA Afrique.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, au sommaire ce soir. Au Nigeria, un gang armé tue 26 personnes, dont 4 policiers dans le Nord-Ouest. Des ONG alertent sur la situation des travailleurs du cuivre et du cobalt en RDC. Le Sénégal est devenu producteur de pétrole. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken annonce une nouvelle aide de 404 millions de dollars pour les Palestiniens depuis la Jordanie. Hunter Biden, fils du président américain, a été reconnu coupable de détention illégale d'armes à feu. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Nouvelle violence au Nigeria. Des hommes armés tuent 26 personnes, dont 4 policiers, et enlèvent des dizaines d'autres lors d'un raid dans le nord-ouest du pays. Alexandrine Olognon.
Les criminels à moto, appelés bandits, ont envahi le village de Jidamboka, dans le district de Kankara, dans l'état de Katsina, dimanche soir. Ils ont tué plusieurs personnes et enlevé des dizaines d'habitants, principalement des femmes et des enfants, selon l'administrateur politique de la région. Parmi les personnes tuées figurent des policiers et des miliciens locaux qui ont affronté les bandits. Plusieurs personnes ont également été blessées pendant le raid. La police de Katsina a confirmé dans un communiqué lundi soir la mort de 26 personnes. Katsina est l'un des nombreux états du nord-ouest et du centre du Nigeria terrorisés par des gangs lourdement armés qui procèdent à des raids dans les villages, brûlent et pillent les maisons et enlèvent les habitants contre rançon. Le mois dernier, les gangs ont attaqué 4 villages dans le district de Sabua, dans l'état de Katsina, tuant 25 personnes, pour la plupart des membres des groupes d'autodéfense locaux.
Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko s'est attiré les critiques du monde de la presse par de récents propos jugés menaçants à l'encontre des médias. Dimanche, devant les jeunes de son parti à Dakar, M. Sonko a déclaré « On ne va plus permettre que des médias écrivent ce qu'ils veulent sur des personnes au nom d'une soi-disant liberté de la presse sans aucune source fiable ». Fin de citation. M. Sonko a aussi mis au défi les médias de publier à nouveau des articles liant à la mutation à l'étranger d'un chef reconnu de l'armée, en rappelant que 2 journalistes avaient été interrogés par la gendarmerie pour de tels articles. Monsieur Sonko a aussi dénoncé les détournements de fonds publics auxquels se livreraient, selon lui, certains patrons de presse. Le vice-président du Malawi, Solo Chilima, a trouvé la mort dans un accident d'avion, a annoncé aujourd'hui le président Lazarus Chakwera, peu après la découverte de l'épave de l'appareil porté disparu depuis la veille. Le point avec Rosine Munezero.
Les équipes de recherche et de secours ont localisé l'avion complètement détruit et sans aucun survivant. Tous les passagers à bord ayant été tués sur le coup, a annoncé le président Chakwera. Il s'est exprimé à la télévision au lendemain de la disparition de l'appareil près de Mzuzu dans le nord-est. Les moments que pour dire à quel point c'est bouleversant, a-t-il ajouté, parlant d'une terrible tragédie. L'avion militaire avec 10 personnes à bord avait disparu des radars lundi après avoir échoué à atterrir en raison d'une mauvaise visibilité due au mauvais temps. Les autorités aériennes ont conseillé à l'avion de retourner à Lilongwe, mais elles ont rapidement perdu le contact avec l'appareil, avait relaté lundi soir le président Chakwera. Élu pour la première fois vice-président en 2014 aux côtés de l'ancien président Peter Mutharika, Saulo Chilima, 51 ans, une figure politique charismatique au discours sévère, était très populaire au Malawi, en particulier parmi les jeunes.
2 ONG déplorent les mauvaises conditions de travail et de salaire en République démocratique du Congo. De dizaines de milliers de travailleurs des mines de cobalt et de cuivre, métaux essentiels à la transition énergétique. Elles l'ont fait savoir ce mardi à l'ouverture à Lubumbashi de la conférence annuelle DRC Mining Week. Les précisions de Nanit Talani.
Les ONG RAID, basées à Londres, et le CAJJ, basé dans la cité minière congolaise de Kolwezi, demandent aux sociétés minières de s'engager à verser un salaire de subsistance aux travailleurs des mines, dont le cobalt et le cuivre, essentiels à l'énergie verte. Les ONG estiment ce salaire à 501 dollars par mois, un revenu que de nombreux travailleurs sont loin d'obtenir, alors que plus de 70% du cobalt mondial est extrait à Kolwezi en RDC, troisième producteur de cuivre au monde. Les travailleurs s'appauvrissent et leurs conditions de vie se dégradent, alors que leurs employeurs internationaux semblent engranger des bénéfices énormes, dénonce un communiqué des deux ONG. Elles incriminent également le modèle de sous-traitance utilisé par les sociétés minières qui a conduit à de graves violations des droits des travailleurs. Elles citent un temps de travail excessif, des traitements dégradants, des violences, des discriminations, du racisme, des conditions de travail dangereuses et un non-respect de la couverture santé de base pendant que s'ouvre demain la conférence annuelle DRC Mining Week à Lubumbashi dans le sud-est minier de la RDC.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a poursuivi ce mardi au Moyen-Orient sa tournée destinée à défendre un plan de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Les États-Unis ont promis 400 millions de dollars d'aide aux Palestiniens, alors que le cessez-le-feu proposé par Washington fait son chemin. Jean-Roger Bion.
La réaction du Hamas disant soutenir la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée à l'initiative des États-Unis pour endosser un projet de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, représente un signe d'espoir, a déclaré ce mardi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. « Nous attendons une réponse du Hamas », a insisté M. Blinken. Le chef de la diplomatie américaine a rapporté que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qu'il a rencontré lundi soir, a réaffirmé son engagement envers cette proposition de cesser le feu entre Israël et le Hamas palestinien. Pour cette 8e tournée régionale depuis le début de la guerre le 7 octobre, M. Blinken a rencontré aujourd'hui à Tel Aviv Benny Gantz, membre démissionnaire du cabinet de guerre israélien, puis le chef de l'opposition Yair Lapid. Cet après-midi en Jordanie, Anthony Blinken a annoncé une nouvelle aide américaine de 404 millions de dollars pour les Palestiniens, tout en exhortant d'autres pays à faire de même à l'occasion d'une conférence internationale sur l'aide humanitaire pour Gaza.
Ici aux États-Unis, Hunter Biden, le fils du président Joe Biden, a été reconnu coupable par un tribunal pénal fédéral de détention illégale d'armes à feu en 2018 sur fond d'addiction aux drogues. Jacques Aristide.
Le jury de 12 personnes du tribunal de Wilmington dans le Delaware a répondu oui aux trois chefs d'accusation. Deux sur des mensonges dans les documents nécessaires à l'achat d'un revolver en octobre 2018 et un troisième sur sa détention illégale. Le verdict unanime est tombé après plus d'une semaine de débats dans ce procès de Hunter Biden, souvent en présence de sa belle-mère, la première dame Jill Biden. Il savait qu'il était un consommateur de crack ou qu'il était dépendant, avait déclaré le procureur Leo Wise. Quant à Abby Lowell, l'avocat de Hunter Biden, il avait assuré au juré que son client ne consommait plus de drogue quand il a acheté l'arme. Hunter Biden, avocat et homme d'affaires de 54 ans reconverti en artiste, plaidait non coupable. Il n'a pas témoigné lors de ce procès pénal inédit contre un enfant d'un président américain en exercice. Hunter Biden encourt en théorie jusqu'à 25 ans derrière les barreaux, mais une peine alternative à la prison peut aussi être à décider. Le président Biden s'est engagé à ne pas accorder de grâce si son fils était condamné. Hunter Biden doit également comparaître en Californie en septembre pour fraude fiscale, 2 mois avant que son père n'affronte le républicain Donald Trump lors de l'élection présidentielle de novembre.
Et pour être tout à fait complet, le président Joe Biden se rend à Wilmington dans le Delaware, où vient de se conclure donc le procès de son fils Hunter. C'est ce qu'a annoncé la Maison-Blanche en publiant une modification de dernière minute de l'agenda officiel du président américain. La Maison-Blanche s'est dite profondément inquiète après l'agression au couteau commise contre 4 professeurs d'université américains à Jilin, en Chine. Pékin a évoqué un cas isolé. L'Union européenne a annoncé avoir conclu un contrat lui permettant d'acheter jusqu'à 665 000 doses d'un vaccin prévenant la transmission de la grippe aviaire à l'humain, alors que plusieurs cas ont été rapportés aux États-Unis, au Mexique et en Australie. L'Organisation internationale pour les migrations a annoncé que le bilan du naufrage d'un bateau transportant 260 migrants au large du Yémen s'élevait à au moins 49 morts, parmi lesquels 31 femmes et 6 enfants. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Jean-Roger Bion.
Le Sénégal est entré dans le cercle des pays producteurs d'hydrocarbures avec l'annonce ce mardi par la compagnie australienne Woodside Energy du début de l'extraction du pétrole du champ de Sangomar au large de Dakar. Premier projet pétrolier offshore du pays, l'initiative aura coûté entre 4,9 et 5,2 milliards de dollars dans sa première phase de développement qui comprend l'installation d'une plateforme flottante de production, de stockage et de déchargement capable de produire jusqu'à 100 000 barils par jour de pétrole brut. Le Nigeria avance dans la vente de 5 centrales électriques. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large du gouvernement visant à réorganiser le secteur de l'énergie, à accroître l'efficacité et à attirer les investissements privés. Le coût de la transaction est d'1,15 milliard de dollars, d'après l'agence Ecofin, qui indique que les gagnants des appels d'offres devraient être annoncés très prochainement. La croissance mondiale devrait connaître un léger mieux cette année comparée à 2023, mais rester à des niveaux historiquement bas, a estimé lundi la Banque mondiale, qui ne s'attend pas à une accélération de l'économie mondiale dans les prochaines années. L'institution basée à Washington anticipe à 2,6 ou 2,7% pour 2025 et 2026.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Claire.
Coupe du monde 2026, le Ghana remercie Jordan Ayew.
Les Ghanéens recevaient ce lundi la République centrafricaine dans un match du groupe I qui s'est achevé sur le score de 4-3 en faveur des Black Stars. Après une victoire spectaculaire sur le Mali à Bamako la semaine dernière, Jordan Ayew s'est illustré en marquant un triplé et en offrant ainsi la victoire aux siens.
Nous avons quelques résultats des rencontres de ce mardi.
Le Soudan a battu le Soudan du Sud par 3-0, tandis que l'île Maurice a vaincu l'Eswatini en s'imposant 2-1. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont été tenus en échec 0-0 par le Kenya. Même résultat d'un score vierge entre le Mali et le Madagascar. D'autres rencontres de la journée opposent le Tchad aux Comores, le Cap-Vert à la Libye, le Lesotho aux Amavubi du Rwanda, l'Afrique du Sud au Zimbabwe et la Zambie à la Tanzanie.
Le tirage au sort des éliminatoires prévu ce jeudi 13 juin.
Il aura lieu au siège de la CAF au Caire en Égypte et sera effectué à 11h en temps universel. Les éliminatoires vont déterminer les 7 équipes qui rejoindront le pays hôte, l'Égypte, à la phase finale de cette compétition. Pour la deuxième fois de son histoire, l'Égypte accueille la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer. Les éliminatoires se dérouleront en juin et juillet et le tournoi final aura lieu en Égypte cette année. La Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer, qui s'est tenue au Mozambique en 2022, a couronné le Sénégal.
En Italie, Marco Baroni, nouvel entraîneur de la Lazio.
Il succède au Croate Igor Tudor qui a résilié la semaine dernière son contrat après seulement 3 mois, a annoncé mardi le club romain. Baroni, 60 ans, était jusqu'à 7 saisons en charge de Vérone, qu'il avait rejoint l'été dernier après 2 saisons à Lecce. L'ancien défenseur central a fait l'essentiel de sa carrière d'entraîneur dans des clubs de deuxième division italienne, avec seulement 4 courtes expériences dans l'élite. Il a conduit Vérone à la 13e place du championnat d'Italie cette saison.
Euro 2024, la force de l'Espagne, c'est l'unité, estime Pedri.
Le milieu de terrain espagnol de Pedri a estimé ce mardi que la force de la Roja, qui fera figure d'outsider à l'Euro 2024 en Allemagne, était son unité plutôt que d'avoir un seul leader.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Le Sénégal a franchi une étape historique en devenant producteur de pétrole avec le début de l'extraction du champ de Sangomar annoncé par Woodside Energy. La compagnie australienne vise une production de 100 000 barils de brut par jour. Pour une analyse sur les opportunités, les enjeux et les défis de la production de pétrole et de gaz au Sénégal, Nanit Talani a joint à Dakar Meïssa Babou, enseignant-chercheur spécialisé en économie et gestion à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
L'arrivée de ce pétrole et de ce gaz peut-être sous peu sera une aubaine pour notre économie, pour les autorités qui ont cette vision d'urbanisation. Sachant qu'il faudra alors investir et beaucoup investir dans l'agriculture, la pêche, aussi bien dans l'agro-industrie que dans l'agroécologie. Pour cela, il faudra une manne financière importante. Nous attendons donc effectivement de ce pétrole et de ce gaz environ 750 milliards l'année. Si nous démarrons en ce mois de juin, pour un semestre, on pourrait espérer peut-être d'ici la fin de l'année engranger environ au moins 350 milliards.
Comment assurer une répartition équitable de ces bénéfices entre les différentes régions, mais aussi les couches de la population sénégalaise?
Oui, mais ça c'est une question stratégique, parce qu'il appartiendra à l'autorité de voir, premièrement, est-ce qu'il faut un fonds spécial dédié pour que ce fonds-là ne soit pas mis dans un budget politique qui risque quand même de disparaître. Ou alors le mettre dans le budget qui passerait peut-être aujourd'hui 17 000 milliards à peut-être, je ne sais pas, 9 000 milliards. Mais on peut espérer que quand même une clé de répartition qui mettrait les secteurs sociaux de base en avant, comme la santé, parce que se soigner au Sénégal c'est très difficile et c'est trop cher. Les infrastructures sanitaires manquent, l'école, parce que là on manque d'université. Et en plus maintenant, il y a le défi de l'agriculture pour une croissance inclusive.
Est-ce qu'il pourrait y avoir des défis auxquels le Sénégal serait confronté dans la production de son pétrole ou l'exploitation?
Un défi majeur, c'est le raffinage. Nous sommes l'un des rares pays ici qui dispose d'une raffinerie. Mais parce que cette raffinerie-là était seulement conçue pour les besoins locaux. Aujourd'hui que nous avons maintenant une manne pétrolière importante en volume et qu'il faudra forcément traiter, je crois qu'une solution, c'est vrai, c'est de participer à un oléoduc avec les voisins. Mais l'autre solution et l'autre défi majeur d'ailleurs, c'est immédiatement la mise en place de nouvelles raffineries, surtout au large de la ville de Saint-Louis, là où se trouve justement l'exploitation de ce pétrole-là et même du gaz offshore.
Quelles leçons le Sénégal peut-il tirer des expériences d'autres pays africains producteurs de pétrole?
À partir du Maroc, c'est plus apaisé dans le Maghreb, mais il y a peut-être des pays comme le Nigeria ou le Ghana où ce pétrole-là, quand même, a fait des vagues. Et c'est peut-être cette malédiction, d'ailleurs, qui fait que ces pays comme le Congo ou aussi le Gabon, qui ont trop compté sur ce pétrole-là, avec des budgets de 95% pratiquement pétrole ou 90%, si le pétrole tombe, c'est très logique que ces pays tombent. Mais l'expérience dans la gestion de ce pétrole en Afrique, et pourquoi pas même ailleurs, avec les pays arabes qui sont des pays amis, je crois qu'on pourrait effectivement mutualiser toutes ces expériences, essayer de profiter au maximum de cette richesse-là. Et maintenant, l'avenir, c'est c'est quand même de disposer de compétences humaines, financières, techniques, pour éviter de se laisser entre les mains souvent de grands dealers.
C'était Meïssa Babou, économiste et enseignant-chercheur, spécialiste en économie et gestion à l'université Cheikh Anta Diop, dans la capitale sénégalaise.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Plusieurs milliers de personnes sont menacées d'être délogées dans le cadre d'un projet touristique et environnemental mené par les autorités béninoises. Le plan d'aménagement des berges devrait revitaliser les quartiers afin d'attirer les touristes. Plus de détails avec Ginny Niwa.
Le plan d'aménagement des berges de la capitale béninoise, baptisé Porto Novo Ville Verte, prévoit de redynamiser le tourisme, mais il provoque aussi la fin à l'occupation anarchique des populations qui vivent le long de la lagune. Les habitants des rivages, qui vivent essentiellement de la pêche, sont anxieux.
Agathe Gandonou est habitante du quartier.
Nos maris nous ramènent les produits de la pêche et nous les vendons sur la terre ferme. C'est de la lagune que nous tirons nos ressources. Nous supplions les autorités de nous trouver une solution. Nous sommes nés et vivons au bord de la lagune. C'est de là que nous, les Tofinous, nous menons nos activités pour pouvoir envoyer nos enfants à l'école. Nos ressources financières proviennent donc de cette lagune. Nous demandons aux autorités de nous trouver une solution.
L'objectif de l'initiative est de redonner vie aux quartiers proches de la lagune et de préserver l'environnement, explique Jérôme Bertrand Hardy, directeur de l'Agence française de développement.
Donc c'était un projet qui avait à la fois une vision environnementale, hein, d'où le nom de Porto Novo Ville Verte, et une vision de ranimer, de redonner de la vie aux quartiers de la ville qui sont proches de la lagune, qui sont un peu les quartiers originaires de Porto Novo, mais qui avaient été un petit peu délaissés au fur et à mesure du temps.
Ange-Marie Essé, chargée de projet pour l'ONG International Justice and Empowerment Initiatives, compte bien aider ces populations à faire respecter leurs droits.
Pour cette population, nous voudrons un accord, un partenariat gagnant-gagnant entre la mairie, entre les structures visant à déguerpir ces communautés et la communauté. Parce que déjà, la communauté a des atouts. Et certainement, si la mairie ou les structures étatiques veulent implanter des projets, il faut que cela se fasse en partenariat gagnant-gagnant avec ces communautés pour le bien de tout le monde.
La mairie assure que le conseil municipal a déjà débloqué 100 millions de francs CFA, soit 152 000 euros, pour aider au départ des populations.
Hello everyone! Voulez-vous mieux parler l'anglais? Retrouvez Learning English tous les soirs à partir de 21h30 CU sur VOA Afrique. Un programme entièrement en anglais qui facilite la compréhension de l'anglais parlé en vous présentant des sujets d'actualité à travers une lecture posée, des phrases et un vocabulaire bien adapté. Ne manquez pas cette immersion totale en anglais. Branchez-vous quotidiennement sur VOA Afrique à 21h30 CU, juste après English USA.
L'ex-président ivoirien Félix Oumphouët-Boigny était à l'honneur d'une comédie musicale la semaine dernière à Abidjan. Le spectacle, qui s'est tenu sur 2 jours, a rassemblé une grande foule au Palais de la Culture de la capitale économique ivoirienne. Un événement fort apprécié par le public qui s'est déplacé pour l'occasion. Le reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Bijou Nomagno.
Raconté au travers des livres d'histoire, Félix Oumphouët-Boigny a été cette fois-ci immortalisé par le biais d'une comédie musicale. Le spectacle riche en chants et en danse relate l'histoire du premier président ivoirien depuis l'époque coloniale jusqu'à l'accession de son pays à l'indépendance.
Nous avons toi et moi un ennemi commun. C'est Félix Oumphouët.
Ça vous l'avez dit. C'est un communiste et je hais les communistes.
C'était une pièce 100% ivoirienne qui a fortement été appréciée par le public.
Véritablement, les acteurs ont été bien préparés, se sont bien préparés. On encourage tout le monde, Serge Villers, j'espère, Filoma, la seconde partie, parce que effectivement, l'histoire du président Oumphouët-Boigny ne s'arrête pas à la guerre et les événements. Il y a l'après 60, comment est-ce qu'il a vécu et tout les après. Et donc, on attend sa seconde partie.
C'est l'artiste de la chanson gospel Onel Mala qui a joué le rôle de l'ancien président Félix Houphouët-Boigny. Les scénaristes ont vu en ce dernier des traits physiques similaires à l'ancien président, d'où le choix porté sur sa personne.
Mais c'est un honneur. C'est un honneur. Ça fait même tout drôle, hein, que le choix soit porté sur ma personne. Donc, je vais dire, en tout cas, pour ce rôle, que par la grâce de Dieu, j'assume. Si vous, vous avez aimé, moi, c'est mon plus grand souhait. Si vous avez aimé, c'est l'objectif que je voulais atteindre. Et je bénis Dieu, en tout cas, pour ce choix qui porte sur ma personne. C'est avec bonheur que je vous parle.
La comédie musicale Félix Houphouët-Boigny est une idée originale du journaliste et écrivain ivoirien Serge Billet. L'auteur a voulu mettre en exergue ce type de spectacle pour promouvoir les talents ivoiriens.
Le salaire d'un auteur, le salaire d'un créateur, c'est la satisfaction du public. Hier soir, pour la première, le public était conquis. Ce soir, pour la deuxième représentation, le public est à nouveau conquis. Donc ça veut dire que le but a été atteint. Nous avons tous su trouver les mots, les musiques qui parlent au cœur des Ivoiriens. Et moi, j'en suis très heureux parce que ça veut dire que toute la peine qu'on se donnait pour faire ce travail pendant 15 ans, pendant 13 ans, toute cette peine-là est récompensée par la satisfaction du public.
Plus d'une centaine de personnes ont fait le déplacement pour suivre la comédie musicale sur Houphouët-Boigny. Une première représentation de la pièce a eu lieu le vendredi 7 juin, suivie d'une autre représentation le samedi 8 juin au Palais de la Culture d'Abidjan. Étaient également présents des autorités politiques ivoiriennes de tous bords. Ange Bijou Nomeyan pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Candidat à la présidence des États-Unis, Donald Trump, est de nouveau en campagne après sa condamnation à New York pour falsification de documents commerciaux. Lors de rassemblements dans l'ouest du pays, Trump a mis l'accent sur l'immigration et menacé de sanctionner divers pays dont la Chine s'il n'empêchait pas les gens de partir pour les États-Unis. Davantage avec Scott Stearns, correspondant de la VOA. Récit Gabi Dorsil.
Donald Trump a repris le chemin de la campagne présidentielle la semaine dernière en Arizona, où il a déclaré que le président Joe Biden a perdu le contrôle de la frontière entre les États-Unis et le Mexique.
Tout cela est insoutenable, mais l'invasion de Biden n'est pas un accident. Il s'agit d'une démolition délibérée de notre souveraineté et de nos frontières. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un va vous expliquer pourquoi il voudrait que cela se produise. Je suppose qu'il s'agit probablement de votes.
Rien ne prouve que les non-citoyens votent en grand nombre aux élections américaines. Interrogé sur la manière dont il compte mettre un terme à l'immigration clandestine, Trump a déclaré qu'il agirait contre les gouvernements étrangers qui l'alimentent.
Si la Chine ou un autre pays se comporte mal, nous avons ce que l'on appelle des droits de douane qui sont très sévères.
Ce mois-ci, l'administration Biden a pris des mesures pour bloquer les demandes d'asile à la frontière mexicaine lorsque les arrestations pour franchissement illégal dépassent les 2500 par jour. Biden estime qu'une réforme nécessaire de l'immigration ne doit pas s'accompagner des remarques incendiaires de Trump à l'égard des migrants.
Alors que nous luttons pour une réforme globale de l'immigration, il traite les immigrants de violeurs et de meurtriers. Il dit qu'ils ne sont pas des personnes. Il dit que les immigrés, je cite, « empoisonnent le sang de notre pays ». Mon prédécesseur veut un pays juste pour certains d'entre nous. Nous voulons un pays pour nous tous.
Biden estime que la rhétorique anti-immigrée de Trump ne correspond pas aux principes fondateurs de l'Amérique.
Vous représentez ce que nous sommes en tant que nation d'immigrants, nation de rêveurs, nation de liberté. Et c'est l'Amérique que nous partageons.
Les rassemblements de la semaine dernière étaient les premiers de Donald Trump depuis qu'il a été reconnu coupable d'avoir falsifié des documents commerciaux pour dissimuler les paiements dits d'argent caché qu'il a effectués avant l'élection de 2016. Lors d'un meeting dans le Nevada, il a déclaré que son procès était le résultat de l'instrumentalisation du système judiciaire par Biden, qui a échoué à la frontière.
C'est la pire frontière de l'histoire du monde. Aucun pays du tiers-monde ne possède une telle frontière. Et aucun pays du tiers-monde ne dispose d'armes permettant de s'en prendre à des candidats politiques, comme c'est le cas chez nous.
Un sondage de l'agence Associated Press réalisé en mars a révélé une évolution de l'attitude des électeurs à l'égard de l'immigration. Près d'un tiers des Américains estiment désormais que les immigrants courent un risque majeur de commettre des délits. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 19% qui étaient de cet avis en 2017.
Fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur notre site internet voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique, bien sûr.